sûr.
C'est bon.
Quand il arrivait, il n'allait pas faire de vélo, il venait en cuisine.
Je me rappelle très bien, on avait un rack à légumes, comme ça où on mettait des demi-bacs gastro avec tous les légumes. Je ne me rappelle plus quel plat c'était, mais je suppose que c'était peut-être le gargouillou. Et souvent, il me demandait, Seba, va chercher un petit peu de chaque légume. Ça, c'était ma mission pendant les services. Comment tu veux que je ne sois pas formaté aussi?
Service, s'il vous plaît.
Attention au bouquet gargouillou.
Le triple chef étoilé depuis 1999 a fait part de sa volonté de ne plus apparaître dans le célèbre guide.
C'est le prix de ma liberté.
Sébastien Brasse n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Son restaurant, le Suquet à l'Aïeul, l'affiche complet des mois à l'avance.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster Brasse, 4 lettres pour un patronyme qui brille déjà dans le panthéon de la gastronomie. Brasse, une lignée de cuisiniers qui a placé l'Aïeul, l'Aveyron et l'Aubrac sur la carte de la gastronomie française. Il y a eu Mémé Brasse, Angèle de son prénom, qui a lancé l'aventure en ouvrant un premier restaurant en 1954. Michel Brasse, évidemment, et l'aventure de l'hôtel-restaurant du Suquet à partir de 1992. La consécration des 3 étoiles Michelin en 1999. Et puis il y a désormais au fourneau de la table gastronomique de l'Aïeul depuis 2009. Sébastien Brasse, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez aussi le Café Brasse au musée Soulages. On est à Rodez. Il y a la Halle aux Grains, évidemment, hein, votre restaurant parisien au dernier étage de la Fondation Pinault dans le quartier des Halles à Paris. Et vous venez de publier Brasse, le goût de l'Aubrac aux éditions Faïdon, gelé à mes côtés. C'est beaucoup plus qu'un livre de recettes, hein, ce livre. C'est un testament, un témoignage, un album de famille avec des photos splendides signées Benjamin Schmuck et Anne-Claire Hérault. Les textes très sensibles et ciselés signés Pierre Carré. J'ai vraiment dévoré votre livre de bout en bout et ce fut un grand bonheur de lecture et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, n'est-ce pas Zazie ?
Ouais, j'ai trouvé ce livre vraiment génial.
Tout à fait étonnant et sincère. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, bah on l'a entendu, hein, Zazie Tavitian et Jérôme Gagnès. Salut les copains.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Jérôme, dans nos verres.
Le mansoi ne reste pas dans l'entre-soi.
Ah, intéressant. Alors là, il est peut-être question d'un cépage. Tiens, il y a l'œil de Sébastien Brasse qui frise. Zazie Tavitian, on va évoquer avec vous une émouvante histoire de famille. Le très beau roman graphique que vous signez aux éditions Calmann-Lévy avec les dessins de Caroline Perron. Il s'intitule « À la recherche de Jeanne » et il raconte l'enquête que vous avez menée sur votre arrière-arrière-grand-mère déportée en 1943 dans un camp d'extermination dont elle ne reviendra pas. C'est un portrait poignant que vous brossez à travers notamment son carnet de recettes que vous avez retrouvé. On va parler ensemble de cette aventure familiale et culinaire, avec des recettes d'ailleurs.
Oui, je vous ai même apporté sa recette du gâteau au chocolat.
Voilà, de votre arrière-arrière-grand-mère. Histoire de famille aujourd'hui au menu dont on va déguster. Pour interagir en direct dans l'émission, il y a notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, chronique, adresse, recette, coup de cœur, podcast, franceinter.fr à la page on va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Vous avez, chers amis, un gobelet en carton sous vos micros où j'ai versé quelque chose à boire. C'est à l'aveugle, c'est une surprise. Qu'est-ce que Sébastien Brasse pourrait m'en dire ?
Alors, on ressent un léger pétillant à la dégustation.
Tout à fait, c'est une boisson pétillante.
Et le premier parfum qui me vient en tête, c'est un petit peu la pomme Granny Smith. Avec
d'accord.
Une légère acidité, ce côté très fruité. Voilà, c'est les premières sensations que j'ai à la dégustation, avec une couleur dans les jaunes pâles, jaune-orangé pâle.
Absolument.
Voilà mes premiers sentiments sur cette boisson.
Il y a effectivement cette petite acidité malique, hein, ce petit côté un peu mordant, mais pour autant, il n'y a pas de pomme. Zazie.
Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu herbacé aussi.
Ouais.
Je sais ce que c'est parce que j'en ai bu beaucoup cet été.
Comment ça, vous savez ce que c'est ?
C'est du kombucha.
Bravo, ouais. C'est bien. C'est un soda, une boisson naturellement fermentée et donc naturellement pétillante, tout à fait, c'est du kombucha. Mais alors un kombucha parfumé à quoi ?
Moi, il y a une dimension végétale, pour rejoindre ce que dit Zazie, une amertume et un caractère grillé, toasté, alors, qui m'a rappelé au départ, au nez, j'ai mis le nez dedans, j'ai pensé vraiment à du sarrasin grillé. Mais en tout cas, il y a cette dimension grillée, toastée qui est très marquée, je trouve.
C'est vrai que je trouve qu'il y a aussi une dimension céréalière, mais il n'y a pas de sarrasin. Vous donnez votre langue au chat.
De la fleur de sureau.
Bravo. Alors, il y a du sureau, c'est très bien joué. Ça crée pas l'air, ma gauche. Ouais. Hein. Mais il n'y a pas que du sureau. Il y a également, une herbe champêtre, sauvage, qui vraiment envahit un peu la gastronomie française, parfois peut-être même un peu trop, c'est la reine des prés. La reine des prés, vous l'utilisez ou pas, Sébastien Brasse ?
Alors, je crois que la reine des prés, ça fait partie des essentiels de mon père et des premières plantes sauvages, peut-être, qu'il a utilisées. Il faisait à l'époque une crème glacée. Je me rappelle très bien, parce que c'était un parfum très particulier, évidemment, à l'époque. Personne n'utilisait ce genre de plante. Donc, ça faisait partie de mes premières découvertes végétales, encore inconnues à l'époque.
La reine des prés avec des notes céréalières, justement, mais également des notes vanillées. Et puis, ce petit goût un peu amande amère qu'à la reine des prés. Il y a effectivement de la fleur de sureau très bien jouée. Et puis, il y a de l'aspérule. Voilà, ce ne sont que des plantes sauvages, des fleurs, des feuilles, des racines récoltées avec soin et travaillées à sec. Bon, alors, depuis que Zazie Tavitsian a fait une chronique sur la vague kombucha qui déferle en France, on sait ce que c'est, hein, une boisson pétillante, avec comme ferment une culture symbiotique de bactéries et de levures. Ça ressemble d'ailleurs un peu à une... Voilà, une mer de vinaigre que l'on plonge normalement en Asie dans une solution sucrée à base de thé. Mais comme le thé est loin de chez nous, notre artisan n'en met quasiment pas. Donc c'est très peu sucré, bourré de bonnes bactéries, un soda un peu naturel. Vous en faites du kombucha, non ?
Pour rien vous cacher, c'est une boisson que je consommais il y a quelques années pendant les services.
C'est ça.
Parce que je la trouvais très rafraîchissante quand on a chaud en plein été. Mm-hmm. J'avais toujours un petit verre de kombucha face à moi. C'était toujours très rafraîchissant, très réconfortant. Pendant les services, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup.
Eh bien, ce kombucha aux plantes sauvages est fabriqué par la distillerie du Salève, située, comme son nom l'indique, au sommet du Mont Salève, hein, bien connu évidemment des amateurs du Tour de France. Une montagne des Préalpes située en Haute-Savoie, à 1200 mètres d'altitude. Et cet environnement alpin, eh bien, c'est le terrain de jeu de Jean Verdonnet, distillateur reconverti de 41 ans qui, entre deux descentes de parapente, glane des plantes sauvages qui vont entrer dans la composition de ses gins, ses bitters, mais également ses liqueurs. Il y a un autre petit gobelet là. Est-ce que vous avez trempé le verre ? Alors cette fois, il y a de l'alcool. Hein ?
Non, ça c'est immédiat.
Sébastien Brasse.
Oui, alors, évidemment, ça m'a parlé immédiatement, forcément. Cet été encore, je voyais des hommes perdus sur le cœur de l'Aubrac avec leur grande fourche,
ouais,
immense, arc-boutée dessus, pour essayer de déterrer cette fameuse racine très présente sur le plateau de l'Aubrac. Et c'est une boisson relevée d'une pointe de réglisse, et qui m'a marqué parce que ça fait partie des premières boissons à l'époque qui ont été créé par la famille, par mon père. Donc c'est un apéritif que l'on sert encore.
Vous évoquez évidemment la gentiane. Hein.
J'évoque la gentiane. C'est ça. J'évoque la gentiane de réglisse, voilà, qui est un apéritif que l'on propose au restaurant depuis plus de 30 ans, je pense.
C'est ça. Sauf que là, il y a effectivement de la gentiane, mais qui n'est pas accompagnée de réglisse, mais de berce. Et cette berce,
c'est la berce.
A justement des notes... des notes d'agrumes tout à fait intéressantes, qui pourraient remplacer d'ailleurs un peu l'orange. Vous aimez ou pas Jérôme ?
J'adore la gentiane.
C'est vrai ?
Oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça.
Donc je vous fais un joli cadeau.
Ah oui, ça c'est merveilleux ça.
Voilà, liqueur de gentiane avec un peu de berce. Et c'est une des boissons que fait justement Jean Verdonnet. Voilà, il est en circuit court. On peut trouver tous ses produits dans une liste de magasins bio et de restaurants de la région que Fabrice Rivaud a indiqué sur notre site internet. La distillerie du Salève, on va suivre de près le travail de cette petite entreprise artisanale. Évidemment, il est totalement bio. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Vincent Désir à la console, Fabrice Rivaud à la préparation. Le comeback de Louise Attaque avec le titre « Sortir de l'ordinaire ». C'est un choix de Djoubaka. Bon dimanche sur France Inter.
Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Les hommes sont pressés, les hommes sont sincères. Certains ont de l'espace, si on a d'autres qui se servent. Certains sont amoureux, d'autres si solitaires. Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre. Il y a les partisans, il y a les réfractaires. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire.
suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Certains sont délicieux, d'autres de vrais bulldozers. Certains sont silencieux, d'autres de vrais commères. Certains sont avec eux-mêmes, heureux et se tolèrent. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Des élégants comme d'autres font des commentaires. Y'a ceux qui sont entiers, les autres sur les nerfs. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire.
Sébastien Brass est l'invité dont va déguster. Sébastien, vous nous avez apporté un drôle d'objet, qui est d'ailleurs en photo à la page 223 de votre livre. Là, comme ça, on peut se demander à quoi ça sert, c'est très intriguant. Il est particulièrement modeste, mais il est en fait très, très précieux à vos yeux. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une brochette métallique, qui à l'origine était une aiguille à tricoter. Et qui est un petit peu finalement le symbole de la transmission, d'une première transmission entre ma grand-mère Angèle, dont on a entendu la parole juste au début de la mission et qui a provoqué en moi beaucoup d'émotions. Et ensuite, cette brochette a été transmise à mon père, qui lui-même, à l'époque de la transmission, me l'a très cérémonialement transmise, puisque cette brochette, en fait, c'est un outil de cuisine que j'utilise encore tous les jours à mon poste de travail. Cette brochette, on l'utilise tout simplement pour sonder à cœur les températures de viande, de poisson, de légumes, en tester la texture, puisqu'on la pique à cœur, et ensuite je vais la porter très rapidement sur ma lèvre inférieure, et la température donc à cœur du produit va m'aiguiller immédiatement sur le degré de cuisson et si c'est le moment ou non de servir ce produit au client. Donc c'est un double emploi, un emploi technique mais aussi le symbole de l'histoire familiale.
Ça fait environ 20-25 cm de long. Alors il y a un manche en liège, hein, tout simplement.
C'est
un bouchon de champagne.
C'est un bouchon de champagne, un vieux bouchon très usé, qui a commencé à s'effriter un petit peu. Alors cette brochette originale qui pour moi est vraiment le symbole de la transmission familiale. Je la garde toujours à mon bureau parce que c'est quelque chose qui pour moi est très important. Ensuite, j'en ai une autre sur mon poste de travail évidemment qui n'a pas la même histoire, la même patine. C'est vraiment quelque chose pour moi qui symbolise cet amour du territoire, cette passation, cette transmission de notre métier, cet amour du beau et du bon.
Et qui symbolise aussi l'humilité, qui est l'une des valeurs phares de la famille Brass, qui symbolise aussi une forme de simplicité dans cet acte culinaire. Après tout, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'un chef, 2-3 étoiles ou 3 étoiles comme l'a été votre père, pourrait utiliser des thermomètres très sophistiqués pour sonder la viande à cœur. Vous, ça se passe avec un semblant d'aiguille à tricoter et de façon finalement assez empirique. C'est peut-être ça le vrai geste du cuisinier.
Oui, mais finalement, je trouve... tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais je trouve que le fait de sonder la température avec cette brochette nous donne une idée beaucoup plus précise sur, finalement, l'évolution de la température à cœur d'un produit, pour la simple et bonne raison qu'on a ce mouvement de circulation sur la lèvre. On connaît parfaitement le degré d'évolution de la température à cœur. Une sonde électronique, on connaît la température juste à la pointe sur les 5 derniers millimètres de l'aiguille. Cette brochette me permet de connaître parfaitement le gradient de température.
Votre père vous a légué cette aiguille que vous appelez ma brochette. Donc ça se passe en 2010. Un an avant, il avait abandonné le bureau au centre de la cuisine. Cela veut dire que peu à peu, il vous a laissé place, tout simplement. Il est cité dans le livre que vous avez écrit aux éditions Faydon, et il écrit ceci, Michel. « Pour Sébastien, je devais passer la main. Nous avons enclenché la transition, un processus très long, une sorte de fondu enchaîné comme dans un film. Il n'y a pas eu de conflit dans le passage de relais?
Alors évidemment, on avait 25 ans d'écart, des gros conflits, il n'y en a pas eu. Hein. Évidemment, quelquefois des désaccords sur des associations, des produits, des choses comme ça. Mais je crois qu'on a toujours eu cette espèce de complicité réciproque. Hein. Et je crois que cette complicité, elle est due à finalement à notre territoire d'Aubrac qui, moi, m'a vu grandir. M'a vu naître, donc ça aussi, mon père Michel n'est pas content parce que lui n'est pas né sur l'Aubrac, donc régulièrement je le chambre sur ce petit détail de l'histoire, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi est très important symboliquement, et cet Aubrac finalement nous a toujours réunis sur des valeurs communes, sur l'envie de partager, voilà, ce territoire, ces produits, le travail des hommes et l'histoire de ce pays qui au départ n'était pas gagné d'avance.
Pierre Carré, dont on a beaucoup apprécié avec Zazie les textes. Pierre Carré, d'ailleurs, on peut préciser que c'est un ancien journaliste.
C'est ça, il a beaucoup écrit sur le cyclisme. Je crois que pendant très longtemps, il a suivi le Tour de France. Donc ça a été aussi un point commun entre lui et moi. Sauf que lui faisait beaucoup de vélo de route et je l'ai emmené sur les sentiers de l'Aubrac. Je crois qu'il s'en rappelle ailleurs, encore d'ailleurs.
Et il a une façon de décrire les paysages et déjà un style littéraire très beau et une façon de décrire les paysages, on s'y croit quoi. Vraiment, c'est très bien écrit.
Plongé dans l'Aubrac.
Complètement. Et puis, il a pris le temps de rencontrer beaucoup de personnes de mon univers, quel qu'il soit. Il a couché sur le livre beaucoup d'anecdotes, voilà, qui étaient pour moi très très précieuses. Il a vraiment pris le temps de faire les choses comme il faut, d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout des rencontres. Et ça, pour moi, ça m'a énormément touché.
Il écrit ceci: pour Sébastien, Michel Brasse est un père. Pour des générations de gastronomes, c'est une légende. Inventeur du gargouillou, du coulant au chocolat, précurseur d'une cuisine végétale, avec notamment ce menu composé de légumes dès 1978, 3 étoiles au guide Michelin. Et il est vrai que le monde de la gastronomie a failli tomber à la renverse lorsqu'il a annoncé qu'il se retirait en cuisine. Vous avez hérité, Sébastien Brasse, d'une aiguille de cuisson, d'un lieu époustouflant, le Suquet, l'hôtel-restaurant qui est né en 1992 comme une espèce de vaisseau spatial fuselé avec vue sur l'Aubrac. Mais vous avez aussi hérité d'un répertoire gastronomique très très conséquent, avec notamment ce fameux plat qui est peut-être bien l'un des plus connus de la gastronomie française, le gargouillou. Comment on fait avec cet héritage? Est-ce que c'est encombrant? Est-ce que c'est embarrassant? Ou est-ce que c'est au contraire un héritage rassurant?
Je me suis beaucoup posé la question à l'époque de la transmission. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais eu avec Michel Troisgros une discussion intéressante à Tokyo à l'époque. On avait passé une soirée ensemble et évidemment, on avait parlé du saumon à l'oseille, ce que ça représentait pour lui aussi, le poids de l'histoire, évidemment.
Donc le saumon à l'oseille inventé par son père Pierre et son oncle Jean, les frères Troisgros dans les années 60, dont il a voulu un peu quand même clairement se débarrasser. Hein. Quand Michel Troisgros est arrivé à la manœuvre, plus de saumon à l'oseille, ce qui a d'ailleurs un peu choqué les clients à l'époque.
Exactement. Et donc, cet échange était très intéressant parce que pour lui, ça représentait un petit peu le poids de la transmission, le poids de l'histoire. Donc évidemment, moi, je me suis posé la question de ce gargouillou, voilà, créé à la fin des années 70, début des années 80, et qui est évidemment le symbole majeur de la cuisine de mon père. Et la question que je me suis posée, évidemment, est-ce que ce gargouillou, tu dois le garder ou pas? Et en réfléchissant, les mois et les années passant, je me suis dit, mais ce gargouillou, est-ce que tu t'ennuies tous les matins à tailler tes légumes, à partir à la cueillette, à en découvrir toutes les subtilités? Le gargouillou du mois d'avril, est-ce qu'il est le même que celui du mois de juin? Est-ce que celui du mois de septembre ou les derniers du mois de novembre sont identiques? Pas du tout. Ce gargouillou est un plat vivant par excellence.
Pour ceux qui justement n'ont jamais entendu parler de ce plat emblématique inventé par votre père en 1980, est-ce que vous pourriez nous en rappeler une définition simple?
Ce gargouillou, ce plat en fait est une composition quasiment 100% végétale, parce que je ne vous cache pas qu'on fait raidir entre guillemets une petite tranche de jambon pour amener un petit peu de carnet et puis amener un petit peu de
On dirait umami aujourd'hui.
On dirait umami parce que voilà, c'est un jambon un petit peu vieux, parfois un petit peu rance, mais qui amène un petit peu de rondeur avec ses légumes. Et donc le garouillou est une composition faite de légumes, de graines germées, de plantes, fleurs, herbes, sauvages et du jardin. Et en pleine saison, au mois de mai-juin, quand l'Aubrac nous offre des trésors de variétés, de couleurs, de goûts, on arrive à avoir jusqu'à 80 variétés végétales différentes dans ce plat-là. Donc c'est vraiment une explosion de couleurs, de saveurs, de textures qui est magnifique.
On écoute un extrait du documentaire Entre les brases de Paul Lacoste en 2011, où votre père Michel prépare justement ce fameux gargouillou.
C'est le gargouillou du 28 mai. Toulégnac, olives, une purée de poivron jaune, poivron rouge, olive noire, un gommasio de sésame, concombre, oseille.
Et ce gargouillou, Sébastien Brasse, évidemment la liste est très longue des ingrédients qui le composent, mais vous l'avez fait vôtre, à travers notamment une version estivale qui a été un peu renouvelée.
Oui.
Mais c'est toujours votre papa, Michel, qui s'occupe de la cueillette dans le jardin familial.
Alors voilà, je l'ai mis dehors de cuisine à l'époque de la transmission. Mais ça, évidemment, je lui serai toujours reconnaissant parce qu'à l'époque où il est parti des cuisines, il était encore plein d'énergie, mais il avait ce souci de la transmission pour me laisser exister en tant que Sébastien. Donc ça, je lui serai toujours reconnaissant de ce passage-là. Et donc Michel, aujourd'hui, évidemment, depuis qu'il a quitté les cuisines, passe énormément de temps dans son jardin, qui est à 15 km du restaurant, à son domicile, avec notre jardinier James, qui fait un boulot énorme, un Anglais passionné de végétal, qui un amour incroyable pour ce jardin. Donc tous les deux, ils passent un temps fou et tous les matins, évidemment, m'amènent ces trésors de goût, de couleur, de texture. Ils y passent un temps pas possible, mais pour notre plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de nos clients.
Près de 200 plantes potagères sont cultivées dans votre jardin ?
Sur la saison, alors sur une matinée, une journée, au mois de mai-juin, on arrive à cueillir environ 120 variétés que l'on utilise dans la journée. Mais au total, sur la saison, effectivement, je pense que l'on doit être à peu près à 200 variétés différentes.
Il y a une photo éblouissante d'une cueillette. C'est d'ailleurs une photo signée de votre père, je crois, qui montre toute la diversité potagère, légumière que vous cueillez dans le jardin. Et vous nous avez apporté quelques souvenirs, justement, de votre jardin familial à travers... difficile de reconnaître par définition. Là, on est un peu perdu. Hein.
On est tous en train de manger, de sniffer nos feuilles. Là.
Et on a envie d'en savoir un peu plus. Petite leçon de choses. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté ?
Alors, justement, je crois que vous n'avez pas commencé par celle qu'il fallait. Celle-là, ça s'appelle de la balsamite ou menthe coque. En fait, je voulais que vous la... Non, attendez, avant de la goûter, okay. Faut d'abord la froisser entre les doigts et la sentir. Et je trouve que c'est un parfum assez extraordinaire. Par contre,
mentholé.
C'est plus subtil que la menthe tout court.
Complètement.
C'est beaucoup plus subtil.
Le seul problème de cette plante, c'est qu'elle est très, très, très amère. Donc,
très bon.
L'utilisation fraîche est quand même assez pointue, délicate. Donc, régulièrement, on l'utilise en pâtisserie.
Mais elle n'a pas eu son passeport pour le gargouillou, cette plante-là ?
Non, celle-là n'a pas eu le passeport pour le gargouillou parce que c'est une plante que l'on n'a pas à profusion. Mm-hmm. Donc, quand le jardin nous en offre, on l'utilise et on l'associe souvent au chocolat, en pâtisserie. Mais on la fait avant toute chose cristalliser avec un petit peu de sucre semoule et sécher pendant 24 heures à l'étuve.
On raconte une grande feuille très dentelée sur ses contours, très très belle d'ailleurs, assez luisante. D'autres feuilles que vous nous avez apportées, d'autres trésors végétaux ?
Oui, alors là, c'est du Sancho. Pour la petite anecdote...
Sancho, ça me rappelle quelque chose de japonais.
C'est ça, exactement. Il y a quelques années, je sortais du marché aux poissons de Tsukiji. On avait mangé, évidemment, les anguilles grillées, laquées et assaisonnées d'une poudre qui, à l'époque, une poudre que je ne connaissais pas, avec un parfum très, très agrume qui relevait parfaitement bien les anguilles. J'avais adoré cette espèce de poivre où je ne savais pas exactement ce que c'était. En sortant du marché, à un coin de rue, on voit une petite mémé à un coin de rue qui vendait quelques pots de plantes fraîches. Mmh. On prend le temps d'essayer de discuter avec elle, ce qui n'a pas été facile, évidemment. On a goûté cette plante-là qu'on a adorée, puisqu'on a trouvé une espèce de profondeur assez extraordinaire, et on a retrouvé le parfum que l'on avait dans les anguilles. Donc on a adoré ce produit-là. On en a acheté un petit pot qu'on a ramené, évidemment, à la Gardelle, dans notre jardin, que l'on a planté.
Au mépris de toute douane ?
Je ne peux pas le dire. Évidemment, cette plante, c'est parfaitement bien adaptée à notre jardin, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir aussi à l'utiliser fraîche pour le coup. coup et pas séché comme le font les Japonais.
Étonnant, non ?
Et c'est très très bon.
Il y a une chaleur.
Il y a une chaleur, c'est un petit côté citronnel un peu.
Ouais, ouais, absolument.
Il y avait un exotisme qui m'a un peu désorienté.
Et on retrouve le parfum du Sancho, légèrement chauffant justement.
Et c'est hyper persistant, enfin, c'est très long, c'est très, très long
très,
en bouche.
Très, ouais. Ouais, ouais.
Troisième feuille ?
Alors, troisième feuille, aussi, à goûter avec parcimonie, le roram. Alors,
là, on est du côté du Vietnam, je crois.
C'est ça, exactement. Mais pour la petite anecdote, on a sur l'aubrac une plante qui a exactement le même physique, avec les mêmes caractéristiques que ma grand-mère appelait picolengo. La seule différence, c'est que chez nous, c'est une plante qui n'a pas de goût. Or, celle-là, qui vient donc d'Asie, que l'on a également cultivée dans notre jardin, a un parfum, pareil, assez extraordinaire, assez piquant, donc de la même manière que certaines autres, à utiliser avec parcimonie, ciselé finement sur des légumes ou alors parfaitement sur des poissons aussi, c'est un accord qui va bien.
Et là, c'est très particulier.
Le roram, on a presque une sensation un peu anesthésiante.
Un petit peu, il y a un petit côté coriandre, très légèrement.
Bah d'ailleurs, on l'appelle souvent la coriandre vietnamienne. Hein.
Tout à fait, exactement.
Bien joué. Sachant que vous n'aimez pas la coriandre à la base, quand même, donc vous faites un sacré effort.
Non, parce que moi, là, il y a de la subtilité, encore une fois, j'aime beaucoup ça.
On est au rayon dégustation, on y reste avec vous, si vous le voulez bien, Sébastien Brasse, puisqu'il y a un petit trésor au fond d'un gobelet que vous nous avez apporté. Ça fait partie de vos bijoux de famille, si j'ose dire. Il y a le gargouillou, évidemment, emblématique de la dynastie Brasse, mais il y a également cette fameuse peau de lait qui montre tout le caractère humble, paysan de votre cuisine, pourtant... largement étoilé. Racontez-nous ce rapport à la peau de lait.
Alors cette peau de lait, c'est mon caviar à moi. Pour la simple et bonne raison que cette peau de lait, c'est un souvenir que j'ai toujours en tête et qui voilà, que j'ai très régulièrement parce que ça suscite beaucoup d'émotions en moi. Cette peau de lait, lorsque je passais mon temps chez mes grands-parents agriculteurs à la Gardelle, là où nous avons le jardin aujourd'hui, le soir, lors de la traite, mon grand-père revenait avec ses grands seaux de lait frais, donc à chaque fois il m'en donnait un petit verre très mousseux, donc je me régalais de ce lait mousseux. Et ensuite, quand il arrivait à la maison, ma grand-mère faisait tiédir ce lait dans une grande casserole bien évasée. Et le lendemain, voilà, toute la matière grasse de ce lait cru remontait à la surface et formait une peau, mais très épaisse, presque quasiment entre 7 et 10 mm d'épaisseur, dont mon grand-mère, avec beaucoup de précautions, une écumoire, récupérait cette peau de lait à la surface. Elle plaçait cette peau de lait au réfrigérateur. Et le matin, au petit déjeuner, lorsque mes oncles et mon grand-père revenaient de l'étable à 8 heures, on passait à table pour le petit déjeuner. Ma grand-mère préparait des grandes pascades épaisses. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de poêle Tefal, donc on avait une grande poêle en fer bien épais, toute noire, bien épaisse.
Rappelez-nous ce qu'est une pascade, Sébastien.
Donc une pascade, c'est une grande crêpe épaisse, souvent salée, avec quelques herbes ciselées classiques, donc ciboulette, parfois un petit peu de persil. Et donc ça, c'était le plat de référence du petit déjeuner. Et dans cette pascade qui était moitié frite, parce que ma grand-mère mettait beaucoup d'huile pour pas que ça croche, moitié frite, moitié moelleuse, puisqu'elle mettait une certaine quantité dans la poêle, c'était notre petit déjeuner. Et cette pascade chaude, bouillante, mi-croustillante, mi-moelleuse. Mon péché mignon, c'était de l'arroser copieusement avec cette peau de lait épaisse qui était glacée, sortie du frigo. Et ça, pour moi, franchement, c'était le petit Jésus en culotte courte.
C'est ça. Et c'est finalement une matière grasse qui est peut-être considérée comme moins noble que la crème fraîche. Il y a à la fois une douceur et une puissance lactique dans cette peau de lait.
C'est le lait dans toute sa pureté et sa nudité. C'est vraiment... moi, ça m'a rappelé une texture
onctueuse en plus.
En plus, ça m'a rappelé le lait que je buvais comme Sébastien Brasse, juste sorti du puits quand j'allais chercher du lait chez ma grand-mère.
Moi, ça m'a aussi évoqué des souvenirs d'enfance, mais même juste le souvenir du petit déjeuner avec son bol de lait, parce que ça, c'est l'essence de ce souvenir-là. Moi, c'était la version industrielle que je buvais certainement du lait, et pourtant, en goûtant cette peau de lait, ça me rappelle ces souvenirs d'enfance.
Ouais, comme quoi, ça parle à tout le monde. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust. Et au détour d'un texte, comme ça, de façon très humble, il n'y a pas du tout de page consacrée à la recette de la peau de lait. Eh bien, je trouve cette recette. Pour obtenir une crème merveilleuse, versez un litre de lait entier dans une casserole. Meilleur le lait est, meilleur la peau de lait est, j'imagine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se tourner vers, si possible, un bon lait cru, biologique, entier. Et ensuite, on le fait chauffer jusqu'à ce que le liquide commence juste à frémir. Attention à ne pas entrer en ébullition. Et on réserve au frigo 12 heures et on obtient cette jolie couche à la surface.
C'est exactement ça.
Et la peau de lait s'est fait une très jolie place dans votre répertoire gastronomique, là, comme ça, actuellement, sur la carte de votre restaurant du Suquet, où est-ce qu'on peut trouver de la peau de lait?
La peau de lait, en ce moment, je l'associe avec la laitue asperge, ou appelée également celtus, qui
oui,
est une...
Oui, formidable.
Voilà, ça, c'est un produit aussi que j'aime.
Laitue très croquante.
C'est ça, que j'aime beaucoup. Qui n'est pas très courante chez nous, qui en Asie, par contre, l'est tout à fait. Et cette celtus que l'on cultive au jardin, c'est une moelle donc que l'on épluche, puisqu'il y a une peau extérieure assez dure. Et ensuite, on la fait cuire à l'étouffée. Donc, c'est un goût très, très subtil. Et je trouve que la peau de lait s'accommode très bien avec ce produit-là. Et il y a une complémentarité qui, moi, me séduit énormément.
La fermeture du restaurant gastronomique intervient à quelle date? C'est en novembre?
Alors, voilà, cette année, on ferme le 20 novembre.
Et ça réouvre?
Tout début avril. En général, on ferme avec les premiers flocons et on réouvre avec les derniers.
Restaurant tout le temps complet?
Tout à fait.
Mais vous n'entrez pas en hibernation pour autant entre novembre et le printemps, puisque j'imagine que c'est une période où vous en profitez pour renouveler vos créations.
Alors, paradoxalement, pas tellement. Alors effectivement, c'est donc cette période...
Donc vous entrez en hibernation alors, Sébastien?
Non, pas vraiment non plus. Parce que bon, pendant les 7 mois et demi d'ouverture, évidemment, je suis présent à 99% dans mes cuisines. C'est vraiment mon cœur de métier, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Être au contact des produits, être au contact de l'équipe, c'est vraiment... c'est mon premier métier et je ne le renie pas, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc pendant la saison, je suis très occupé au restaurant. Et pendant la période hivernale, ben, justement, je m'occupe de travailler davantage sur les projet de rendre visite à ma belle-sœur au Café Brasse à Rodez avec Christophe, son mari, de travailler évidemment sur le nouveau projet du Japon aussi, le nouveau restaurant qui devrait un jour, j'espère, ouvrir ses portes, puisqu'on est présent au Japon depuis 20 ans, mais nous avons aujourd'hui un nouveau projet avec un restaurant aujourd'hui construit avec une architecture magnifique, et aujourd'hui donc le projet parisien depuis un an et demi, donc tout ça m'accapare pas mal pendant la saison de fermeture. Mais pour le coup, la création, c'est vraiment... Moi, j'ai besoin d'avoir les produits entre les mains, j'ai besoin de mon retour de marché à 5h du matin de Rodez, j'ai besoin du contact avec mes producteurs. L'hiver, à l'Aïeul, le restaurant, c'est un petit peu la maison fantôme. Hein. C'est une maison qui est vide, il fait 10 degrés dedans, donc c'est pas très propice, enfin, en ce qui me concerne, à la création.
Le sang de l'Aubrac coule dans les verres de Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors, je vous invite tous à prendre votre verre et à goûter le vin que j'y ai servi.
Jusque-là, on sait faire.
Ouais, jusque-là, tout le monde sait faire. Et mettre le nez dedans, avoir un premier contact avec ce vin et puis ensuite le déguster. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sébastien, vous qui connaissez bien les vins de ce coin, c'est pas très loin de chez vous. Vous êtes là vraiment à la maison. J'ai voulu vous faire découvrir un autre Mansois. Que ceux que vous avez à la carte, un vin pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu quand même de l'appellation, parce que c'est une appellation que j'aime bien. On a parlé ici d'un domaine, le domaine Ducrot, lorsque nous avons fait une émission sur le rosé. J'avais évoqué la cuvée Los Andes del País rosé du domaine Ducrot, Philippe et Julien Tellier, un domaine que j'adore. Du reste, c'est un domaine que vous avez à la carte à travers les cuvées de grains. Vous avez le grain de Mansois de Philippe et Julien, qui est une petite merveille. Et là, je voulais redécouvrir aussi cette appellation. Donc, j'ai goûté quelques...
De quelle appellation vous évoquez?
On parle Marcillac, pardon, évidemment. On parle de Marcillac, qui est situé donc au nord-ouest de Rodez. C'est une petite appellation, ça fait 200 hectares. C'est dans le vallon de Marcillac. Ce vallon, il a été creusé par des rivières qui ont creusé des petites vallées, et c'est sur les coteaux bien exposés, plutôt sud de ces vallées, qu'on a planté des vignes, parfois en terrasse, parfois sur des coteaux abrupts, avec un cépage très majoritaire qui s'appelle le Mansois. C'est le nom vernaculaire de ce cépage, et ce cépage, il s'appelle plus généralement le fer cervadoux. Alors, on retrouve le fer cervadoux aussi chez nos amis de Gaillac, et notamment chez évidemment au domaine Plageol et chez beaucoup d'autres.
Un petit mot sur les Plageol, puisque la famille Plageol, Bernard, hein, notamment, vous êtes très lié avec... cette famille, hein, les Brasses.
On est très liés depuis très très longtemps, puisque ce sont des amis chez qui, avec l'équipe, nous allons chaque année en bus faire les vendanges à l'automne, donc c'est toujours des journées évidemment mémorables. on vendange un petit peu le matin et ensuite on déguste beaucoup l'après-midi. C'est une espèce de grande fête parce que viennent évidemment toute l'équipe du restaurant, mais aussi les amis des Plageoles, amis vignerons, restaurateurs du coin. Donc c'est vraiment un moment de partage, d'échange.
Et ça, c'est un rituel annuel.
C'est un rituel annuel depuis les débuts du restaurant au Suquet, depuis les années 92-93.
Donc voilà, c'est un temps que je reviens sur mon cépage, le Monceau. Gloire aux Plageoles, ça nous sommes bien d'accord. Je reviens sur mon cépage, le Monceau, et donc on trouve ici une appellation qui est très intéressante parce qu'elle est sous l'influence de trois climats, méditerranéen, océanique et continental. Ça fait un mésoclimat bien particulier. Ça permet à ce cépage, qui est de la famille des Carmenais, c'est la même famille que les Cabernets. Le Monceau, il a ce petit trait commun avec certains Cabernets, cette petite pointe végétale quand elle est fine et élégante, qui rappelle un tout petit peu un poivron bien mûr et avec des arômes de fruits qui sont très marqués. Ce cépage, il est planté sur deux types de sols, sur des calcaires ou sur ce qu'on appelle le rougier, qui sont des marnes rouges, qui sont bien des grès rouges, qui sont bien spécifiques à Marcillac. Et puis, au sein de cette appellation, on a Marc Freys, qui a créé le domaine des Boissières. Alors, Marc, il a créé ce domaine en 2017, donc c'est tout récent. Il se souvenait des allées et venues au moment des vendanges avec son grand-père, qui a disparu en 2012, qui cultivait encore de la vigne jusqu'à l'orée des années 2000. Et puis, Marc, il a fait des études de viticulture. Il est allé bourlinguer un peu partout et finalement, l'envie de reprendre cette petite parcelle familiale et d'y ajouter d'autres parcelles pour créer un domaine s'est fait pressante. Et donc, en 2017, c'est la création du domaine. Je vous parle là d'une cuvée qui s'appelle Lias. Mmh. Lias, c'est le nom de l'époque géologique dont les calcaires qui sont dans le sol de cette vigne sont issus. Et puis Lias, c'est aussi ça fait référence à la photo qu'on voit sur l'étiquette, au dessin qu'on voit sur l'étiquette, de mains, de vraies mains de paysans qui lient une vigne à son tuteur et donc ça c'est en occitan et c'est un pur Monceau,
c'est bon,
qui évoque à la fois d'abord très très typique de ce qu'est un Monceau à Marcillac, c'est-à-dire des notes poivrées, des notes de fruits rouges, on retrouve un registre de cassis assez frais, une framboise qui vient pointer un peu son nez dans un registre acidulé et une bouche qui est à la fois qui est très persistante et qui a ces très beaux tanins de calcaire. Donc c'est pas juste coulant, c'est pas juste un vin de soif, c'est un Monceau et un Marcillac qui a de l'ambition, c'est un Monceau et un Marcillac qui va défier le temps. Il a 10 ou 15 ans de garde, ce vin. Et en fait, ces beaux tanins de calcaire, c'est des vignes de 55 ans qui plongent dans le calcaire. Et ces beaux tanins de calcaire, ils sont un petit peu saillants comme ça en finale. Donc, ils appellent la nourriture, ils appellent une viande, ils peuvent appeler aussi un poisson, ils appellent de la nourriture. Et voilà un vin dont la persistance et la fraîcheur donnent une allonge avec toujours un registre de fruits, de jolis fruits, plutôt acidulé. J'aime beaucoup ces vins qui sont...
Il y a de la matière en même temps.
Il y a de la matière, qui sont à la croisée du vin de soif et qui en même temps ont la densité...
Et la profondeur
d'un vin qui a plus d'ambition, parce que ce terroir mérite d'avoir des vins qui ont de l'ambition, parce que ce terroir est un très beau terroir.
Vous connaissiez ce domaine, Sébastien Brasse ?
Non, pas très bien, non.
Ah, il va falloir en parler à votre sommelier argentin.
Il n'a pas fait son boulot, le coquin.
Non.
Sergio,
je suis presque sûr qu'il doit connaître le domaine, mais voilà, c'est une petite découverte pour moi. Et Marcillac non, mais ce domaine oui. Et voilà, c'est petit Marcillac, ça fait 200 hectares, mais c'est vraiment un très très beau terroir.
Et par ailleurs, un petit mot aussi sur la politique bachique que vous menez à la Halle au Grain, le restaurant que vous avez ouvert il y a maintenant 2 ans.
Un an et demi, oui.
Un an et demi. On est au dernier étage de la Fondation Pinault, dans l'ancienne Bourse du Commerce, Paris 1er, près de la rue du Louvre. Et là, il y a, on va dire, un geste bachique très important, Jérôme.
Ouais. Sergio Calderon, avec la famille Brasse, a eu une idée absolument formidable, qui était, pour coller à la Halle au Grain, de faire des vins de grain, donc mettre en avant des cépages. Bon, il y a l'aristocratie du vignoble français qui se trouve sur cette carte. J'ai vraiment été bluffé par la qualité générale des cuvées de grain. Je les ai goûtées hier, j'en ai goûté une petite vingtaine. J'ai été bluffé par la qualité globale, par le niveau. C'est vraiment des superbes vins. Ils font chaque fois, c'est à chaque fois de beaux ambassadeurs et ils font honneur aux appellations dont ils sont issus. Ils se sont de grands ambassadeurs et je suis très très rapidement juste. Il y a évidemment le grain de mansoie de Philippe et Julien Tellier, on vient d'en parler, c'est incontournable quand on va dîner dans ce restaurant ou déjeuner dans ce restaurant. La bouteille est à 37 euros. C'est le régional de l'étape. On ne peut pas se passer de goûter ce vin. Et puis, d'autre part, une mention, un coup de cœur pour un Nebbiolo, un vin italien, qui est un Langhe de chez Sobrero, absolument superbe, très joli.
Ambition inédite sur la carte des vins de votre restaurant parisien, Sébastien Brasse.
Alors, évidemment, c'était un projet unique, imaginé par Sergio, rendons à César ce qui est à César. Donc, quand il a lancé l'idée à l'époque, on l'a pris pour un dingue, parce qu'on était persuadé que les vignerons ne nous suivraient pas. Mais c'est vrai que Sergio, depuis très très longtemps, entretient une relation très particulière avec de nombreux vignerons. Et cette idée-là les a séduits immédiatement. Et la plupart des vignerons ont accepté de nous suivre dans cette idée, des plus grands vignerons aux plus modestes. Et c'est vrai que ça a été une démarche absolument extraordinaire, d'autant plus que chaque bouteille a une étiquette identique. Donc il y a vraiment une espèce de cohérence dans cette ligne, dans cette collection de vins assez unique et que l'on retrouve uniquement à la Lograin à Paris, que je n'ai même pas à l'Aïole. Et j'en suis frustré parfois.
On va déguster sur France Inter.
Pour tous les gastronomes, c'est l'incontournable des bonnes tables. Le guide Michelin 99 sort aujourd'hui. On sait déjà qu'un seul chef va perdre sa troisième étoile. Marc Menot, établi à Saint-Père-sous-Vézelay en Bourgogne, à l'enseigne de l'Espérance. En revanche, une troisième étoile va briller sur l'Aubrac avec celle qui est conquise cette année par Michel Brasse, établi à L'Aïeul dans l'Aveyron. C'est d'ailleurs le seul chef qui reçoit cette année cette promotion.
Un extrait du journal de 7 heures de France Inter du 1er mars 1999. On est allé rechercher cet extrait à la suite de la lecture de votre livre. Vous racontez que vous êtes avec votre père Michel et que vous apprenez tout simplement à la radio, en écoutant notre antenne, et bien que le Suquet est honoré d'une troisième étoile au guide Michelin. Et en plus, Sébastien, c'est pour ça qu'on voulait vous interroger sur ce sujet, vous y êtes pour quelque chose, puisque c'est vous seul et non votre père qui aviez affronté quelques mois plus tôt, en juin 1998, la visite surprise du directeur du Michelin en personne. Vous avez même joué votre vie sur un nouveau dessert, racontez-nous.
Si j'avais su qu'il passait ce jour-là, je n'aurais jamais pris cette initiative. Effectivement, ça a été un coup du sort assez incroyable, parce que je crois que ce passage de ma vie professionnelle a été assez essentiel dans l'aide à la transmission avec mon père. Ce jour-là, on avait une réservation avec un nom d'emprunt, puis Véronique et Sergio ont reconnu Monsieur Neigelin, à l'époque, grand directeur du guide, qui venait déjeuner au restaurant.
On n'était pas encore champion du monde, hein.
On n'était pas encore champion du
monde.
C'était
juin 98, un mois après, effectivement, Zidane et toute la bande gagnaient.
Exactement. Donc on a fait comprendre à Monsieur Neigelin qu'on l'avait reconnu, on a joué carte sur table. Véronique et Sergio l'ont accompagné en cuisine voir le chef. Sauf que le chef, ce jour-là, c'était pas Michel, qui était parti deux jours exceptionnellement, parce qu'il ne partait jamais. Il était parti deux jours. Je m'avance vers lui, je me présente comme étant
Vous avez dû avoir le cœur qui a fait le yo-yo, non?
Ah mais là, oui, et puis c'était que le début en plus. Ouais. Je l'accueille en cuisine, il a marqué un temps de recul, parce qu'il s'attendait à voir Michel, mais voilà, c'était Sébastien, qu'il ne connaissait évidemment pas. Voilà, je l'ai salué, il est passé en salle, il a choisi son menu. Un garouillou, un plat à base d'agneau, agneau aveyronnais à laiton. Et en dessert, il a eu la magnifique idée de choisir un dessert à base de cerises que j'avais pris l'initiative de créer et de mettre en place le matin même sans le faire valider par mon père. Donc quand j'ai reçu le bon en cuisine, je vous explique pas le coup de stress et de pression que j'ai eu, parce que si mon père avait su ça, je crois qu'il m'aurait banni de la cuisine à vie. Heureusement, je ne lui ai pas dit de suite. Et du coup, beaucoup de stress, de pression. Évidemment, à la fin du repas, on a parlé un quart d'heure, 20 minutes avec Monsieur Neigelin. Je lui ai présenté les projets de l'hiver suivant qui étaient déjà prêts.
Il ne vous livre pas vraiment ses impressions?
Non, je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas. En tout cas, à l'époque, on n'avait aucun commentaire sur le repas qui était fait par les inspecteurs. Donc, je n'avais aucune idée de ce qu'il avait pensé de son expérience à notre table.
Et en plus, il a eu ensuite, via la caméra de surveillance, une attitude un peu bizarre.
Il est parti, enfin, il a payé son addition, il est parti, puis sur le pan parking du restaurant, je l'ai vu faire des allers-retours, je l'ai vu réfléchir, je l'ai vu circuler, méditer ou je ne sais quoi. Et là, je me suis dit, il est peut-être en train de réfléchir à son expérience gastronomique dans d'autres maisons. Il est peut-être en train de se décider si oui ou non notre maison mérite 3 étoiles. Donc là, pareil, on est en train de transpirer devant notre écran qui était sur le parking. Client en train de filmer cette épopée assez, assez stressante aussi.
Et oui, et c'était effectivement une aventure assez... ça a été un immense bonheur, évidemment, hein, mais...
Ça a été pour moi et pour notre famille un marquant très fort, dont j'ai pas pris conscience tout de suite. Mais au moment de la transmission, et peut-être même avant, j'ai pris conscience finalement que je pourrais exister à un moment donné en tant que Sébastien. Et mon père a pris conscience finalement que même en son absence, la maison ne s'était pas écroulée et avait su faire face à une situation particulièrement délicate.
Vous avez quelques minutes, Sébastien Brasse, quelques minutes de répit justement pour nous préparer un très joli dessert là aussi. Dessert signature de la maison, la gaufrette de pommes de terre. Et on parle effectivement d'un dessert. Zazie Tavitian, vous nous accompagnez dans l'émission depuis quelques saisons, mais vous êtes aussi l'autrice d'une enquête familiale et culinaire poignante. On en parle avec vous.
On va déguster. Sur France Inter.
Dans le livre de Jeanne, qui se trouve en Israël, il y a beaucoup de recettes françaises. Avec du beurre, de la crème et du beurre. Et de temps en temps, très très rarement, il y a des recettes qui nous laissent deviner que Jeanne était juive.
Gâteau de semoule, gâteau de riz renversé, pudding aux fruits confits, boulettes, tarte à la moelle, pâté de foie gras, mousse de pomme,
pas mal,
charlotte russe,
carpe farcie,
écailler et vider une carpe, manier un morceau de beurre avec persil, champignons hachés. Il faut que la farce ne soit pas trop épaisse.
Fameux. C'était un extrait de « À la recherche de Jeanne », une enquête sous forme de podcast en 5 épisodes que vous avez écrite et qui a été mise en ligne en mars 2020, Zazie Tavitian, que l'on peut encore écouter d'ailleurs sur Binge et sur de nombreuses plateformes d'écoute. Hein. « À la recherche de Jeanne », c'est désormais le livre que je tiens à la main, un roman graphique qui m'a vraiment touché et que vous publiez aux éditions Calman Lévy avec la dessinatrice Caroline Perron. Les premiers mots de ce roman graphique sont les suivants. J'ai l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais je ne me rappelle pas qui m'en a parlé le premier et ce qu'on m'a dit. Chez moi, nous évoquions très peu Jeanne. Les circonstances de sa disparition ont toujours été troubles. Racontez-nous qui était Jeanne.
Eh ben Jeanne, déjà, c'était mon arrière-grand-mère, donc la grand-mère de mon grand-père. C'est une femme qui est née en 1884 dans un milieu assez bourgeois et surtout dans la famille c'était la figure de la déportée et finalement cette figure là l'empêchait d'être autre chose, c'est-à-dire que on parlait d'elle vraiment pour ça, enfin on connaissait son existence pour ça. Et elle avait été déportée à 58 ans, donc elle a eu le temps d'avoir une vie avant d'être déportée, et ça on n'en parlait pas du tout.
Elle est décédée en 1943 au camp d'extermination Sobibor en Pologne. Hein. Vous n'en saviez donc pas grand-chose. Et il y a eu un déclic qui vous a donné envie justement d'enquêter sur sa vie, d'essayer de restituer ce qu'elle avait été, cette femme du monde très parisienne qui visiblement aimait les plaisirs de la vie, qui aimait boire et manger, qui tricotait pour tout le monde, qui adorait jouer au piano et qui cuisinait.
Bah oui, forcément, c'est ce qui m'a parlé. C'est une cousine Rareli qui vit en Israël, que j'ai rencontrée à Paris, qui avait retrouvé un livre de recettes de cette Jeanne. Et j'ai eu cette pensée assez, assez simple, mais qui a été un déclic pour moi, c'est de me dire, Jeanne cuisinait, et Jeanne a une vie. Et en partant de ce cahier de recettes, donc qui est un cahier de recettes, vraiment des recettes... début du XXe siècle, donc en fait finalement très, très française, avec comme je dis beaucoup de beurre, beaucoup de crème, de temps en temps quelques plats ashkénazes. Mm-hmm. Mais à partir de ce cahier de recettes, je me suis dit, je vais pouvoir enquêter sur Jeanne. Je crois que je me suis sentie aussi légitime, enfin ça m'a donné une certaine confiance pour le faire, parce que la cuisine c'est mon domaine, donc d'un coup je me sentais à l'aise. Et je suis partie avec cette idée de cuisiner des plats de Jeanne avec des personnes de ma famille. C'était aussi une façon pour moi d'entrer en contact avec eux d'une façon un peu moins frontale, en fait, parce que c'est des gens que je connaissais pas forcément, voire pas du tout. Et le fait de leur parler, de leur dire d'abord, je vais vous interviewer sur Jeanne ou sur cette histoire, mais la première étape, c'est on va choisir une recette ensemble et on va la cuisiner ensemble. Donc c'était aussi une technique d'interview, d'arriver avec ce cheval de Troie qui était le livre de recettes, pour les faire parler de, ben, de leur grand-mère, arrière-grand-mère.
Une façon de briser la glace finalement avec des membres de votre famille avec lesquels vous n'aviez pas forcément des liens très proches. D'ailleurs, on voit toute l'angoisse qui est la vôtre lorsque vous envoyez un mail collectif à tous les membres de votre famille pour leur dire bah voilà, j'ai décidé d'enquêter sur notre aïeul, un peu oublié, disparu, on l'a dit, dans des circonstances dramatiques. Vous avez terriblement angoissé à la suite de l'envoi de ce mail. Et le carnet de recettes a été finalement ce lien que vous avez retissé avec tous les membres de votre famille. C'est une enquête qui vous mène de Paris à Dijon et de Drancy en Israël, car effectivement c'est aussi un voyage en Terre Sainte, dans ce pays où une partie de votre famille a décidé d'émigrer.
Oui, et en fait c'est ça aussi, en fait ça parle effectivement de la vie de cette Jeanne, mais aussi de dans la famille, comment on fait avec cet héritage. Moi ce que je dis, c'est que mon grand-père par exemple était communiste et allait manifester pour la Palestine, donc lui il n'était pas vraiment question de mettre les pieds en Israël. Mm-hmm. Ses cousines sont parties vivre là-bas, et quand je vais là-bas, je découvre aussi plein de façons de vivre avec... avec son judaïsme, et aussi chacun a un peu sa vision de cette Jeanne, parce que c'est des personnes qui effectivement n'ont pas forcément beaucoup parlé de Jeanne, mais c'est une famille où on écrivait beaucoup, où il y avait aussi beaucoup d'images, un des fils de Jeanne était peintre, l'autre était photographe, donc il y a aussi énormément de documents, ce qui a été super pour écrire cette enquête en fait, parce qu'il y avait énormément de lettres de Jeanne, elle a tenu un cahier, énormément d'archives, et en fait cette famille finalement m'a quand même permis de faire cette enquête, parce qu'ils ont conservé tout ça. Et chacun, ce que j'ai découvert aussi, c'est que chacun s'était trouvé un peu un lien avec cette Jeanne. C'est-à-dire que j'allais chez une de ces petites filles qui avait gardé une boîte que Jeanne peut-être avait fabriquée parce qu'elle-même fait des travaux manuels. Une autre qui avait gardé sa Torah parce qu'elle est assez pratiquante. Et donc c'était assez beau de voir que chacun avait trouvé un lien avec Jeanne et avait aussi beaucoup projeté sur elle. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi d'ailleurs avec la cuisine.
Et ce qui est paradoxal, c'est que c'était un personnage tabou, on en parlait assez peu, les circonstances étaient tellement dramatiques qu'on a préféré les taire, et en même temps il y avait un fétichisme familial pour garder, conserver sa correspondance, ses objets, ce fameux carnet de recettes. Alors bien sûr, il y a les pednon que vous faites à Tel Aviv avec votre cousine Racheli, même si je crois qu'on prononce autrement. Hein.
On peut dire Rareli.
Rareli. La recette de charlotte aux pommes avec votre tante Nadine, une petite ville qui vit dans une petite ville en Israël, près de la mer. Voilà, dans un kibbutz. Mais il y a également ce que vous nous avez apporté, et on finira par ça évidemment, c'est ce gâteau au chocolat. Dire qu'il a, c'était quand même la recette de son arrière-grand-mère, c'est une sacrée aventure. Preuve d'ailleurs que les recettes familiales sont finalement un legs qu'on se transmet de génération en génération, Sébastien Brasse.
Tout à fait, de génération en génération. Et quand on parle de ça, évidemment, je pense notamment à l'aligot qui était fait par Mémé Brasse pendant longtemps avec son tour de main unique et que je continue à perpétuer, évidemment. Le goût de la transmission, c'est quelque chose d'unique et de passionnant.
Il est bon.
Il y a 6 œufs dedans, donc il est très protéiné.
Il n'y a pas de farine, je crois.
Il y en a un petit peu, il y a 90 grammes.
J'allais dire que votre arrière-grand-mère s'était déjà lancée dans le sans gluten.
Non, il y a un peu de gluten.
Et avec la peau de lait, c'est génial.
Ah ouais, oui, alors, ça va être une nouvelle recette qu'on va inventer tous les deux. Mais c'est ce que vous disiez sur la transmission, c'est aussi ce que j'ai trouvé dans votre livre, et c'est ce que je trouve génial, c'est qu'il y a effectivement cette transmission, et puis comment vous allez pouvoir aussi l'adapter, et comment vous allez pouvoir amener plein d'autres influences dans votre cuisine qui continuent à raconter quelque chose. Enfin, je pense aux recettes italiennes qui viennent peut-être de votre femme, et c'est aussi apporter... Voilà, c'est toutes les influences qu'on continue à apporter dans la cuisine, et c'est très beau.
On vous recommande vivement la lecture de ce roman graphique qui m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est l'histoire de votre enquête, de vos rencontres familiales autour de recettes de votre arrière-arrière-grand-mère Jeanne, à la recherche de Jeanne, Jazit Avitian, avec les très beaux dessins et très sensibles de Caroline Perron aux éditions Kalman Lévy. Et puis c'est aussi le podcast que l'on peut écouter sur les plateformes. Allez, bah évidemment, il nous reste très peu de temps, Sébastien, donc on va faire vite sur, évidemment, cette gaufrette même si elle est absolument délicieuse. Tiens, on dirait un paysage de Brac, bah, c'est ce que voulait faire votre père, justement, avec ce côté ondulé de cette tuile de pommes de terre, c'est ça?
C'est ça, cette gaufrette de pommes de terre, en fait, c'est une création issue d'un retour de voyage en Amérique du Sud, avec la découverte de patates douces, qu'on a essayé de planter dans notre jardin, mais évidemment, ça n'a pas marché. Mais l'idée de travailler la pomme de terre en dessert est restée, et j'ai souhaité associer cette fine tuile de pommes de terre très légèrement confite, avec une crème au beurre noisette, un beurre cuit à 150 degrés, stabilisé, et ensuite on va l'émulsionner légèrement avec une pointe de crème et de fromage blanc, et ensuite le reste va être, le complément va être fait avec un petit peu de caramel.
Exceptionnel, et on ne pourrait pas finir cette émission sans un mot sur votre femme Véronique, très importante dans votre équilibre de cuisinier et dans la vie de l'hôtel-restaurant. Un petit mot sur son projet, vous avez 15 secondes.
Absolument, ben, Véronique est à mes côtés, on s'est connus à 15 ans, elle est à mes côtés depuis toujours, c'était une pièce maîtresse pour mon épanouissement, pour la transmission, donc je la remercierai jamais assez d'avoir été à mes côtés toutes ces années-là, et aujourd'hui elle est toujours à mes côtés, puis elle a un projet personnel lié à la réinsertion sociale.
Lié à la réinsertion sociale, vous viendrez nous en reparler Sébastien?
Bien sûr,
on n'a pas pu tous dire évidemment, mais on était vraiment très touchés de votre visite dans le studio 521 de la Maison de la Radio. La semaine prochaine on reçoit la sommelière phénomène Pascaline Lepelletier, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.